Aujourd'hui, je te propose de tracer ensemble notre chemin au fil des encres, au pluriel. En effet, j'ai le plaisir de rencontrer Nicolas, plus connu sous le pseudonyme d'Inkoy, qui signifie donc encre. Cet artiste plasticien et scénographe tombé dans le seau de peinture depuis qu'il est petit, redessine avec talent et un brin d'insolence, faut le dire, le bitume de notre ville au son clocher. Il nous permet de revisiter l'espace public, quitte parfois à ce que ses travaux divisent, notamment rue Jeanne d'Arc. Diviser, n'est-ce pas le comble pour un homme dont le pseudo vient de l'espéranto, la langue universelle? Viens avec moi, on va le rencontrer dans son atelier, rue Beauvoisine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Where is Brian? Bonjour Nicolas!
Bonjour!
Plus connu sous le pseudonyme Inkoy. Alors, peux-tu nous dire, première question que je pose à tous mes invités, where is Brian?
Brian is with me, dans mon atelier, à Rouen.
Et alors, pourquoi, on va tirer le fil, hein, bien sûr, mais pourquoi tu as voulu nous recevoir, enfin me recevoir ici? Pourquoi ça fait sens pour toi?
Ah, ça fait sens pour moi pour deux raisons. Parce que mon actualité est chargée et que c'est plus pratique de me trouver sur mon lieu de travail en ce temps de temps. Et puis parce que c'est un univers, je pense que c'est un univers.
Oui.
Et qu'en fait, pour comprendre le travail, c'est plutôt pas mal de voir comment il s'organise, de voir ce qui reste des chantiers, ce qui est déjà stocké pour les chantiers suivants, enfin les pochoirs, les peintures, etc.
Alors, effectivement, dis-moi un petit peu comment ça s'organise. C'est-à-dire que là, par exemple, donc, comme tu l'as dit, on est sur ton lieu de travail, tu as un collaborateur, tu es tout seul. En fait, comment ça s'organise tout ça?
Sur le lieu de travail, nous sommes tout le temps deux. Donc moi, je suis là, moi j'ai plusieurs bureaux hein, ici dans ce truc-là. Je suis surtout la partie créa. Dans tous les cas, je vais être sur tous les rendez-vous, mais ma vraie partie du boulot, moi, c'est la créa. Alors la vie à l'atelier, enfin la vie de travail, mais c'est une vie sympathique. Elle s'organise à l'atelier avec deux personnes principales. Moi, puisque je suis à l'origine de l'activité et qui je suis dit l'artiste.
C'est un mot artiste plasticien.
Enfin, bon, du coup, je vais préférer plasticien, moi, que l'artiste. L'artiste, c'est un peu de l'eau à porter, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure.
On en reparlera.
Et puis, je travaille depuis 2 ou 3 ans maintenant avec Aurélia, qui a aussi son bureau à l'atelier, et qui, elle, s'attache à tous les problèmes, enfin, tous les sujets administratifs, de contrats, de choses comme ça, et qui m'aide aussi parfois sur les couleurs, les choses comme ça.
Ouais. Ouais.
On a un troisième poste, parce qu'il m'arrive d'avoir soit des stagiaires, des apprentis, ou quelqu'un qui vient travailler sur un dossier avec moi.
J'ai dit artiste plasticien, et finalement, tu m'as repris, tu m'as dit que c'est un peu lourd à porter. Mais pourquoi?
Ah, parce que l'artiste, c'est pas un métier. Je trouve que c'est le Graal, en fait. Enfin, c'est le Graal, c'est ce qu'on vise. Donc, moi, j'ai une formation qui est multiple. Je refais pas mon enfance, mais elle est déjà un petit peu particulière dans le monde de l'art.
Ouais.
Mais j'ai fait des études d'art appliqué au lycée. Après, j'ai fait les beaux-arts. Ensuite, j'ai fait un double cursus d'architecture intérieure. Je sais plus ta question.
Ma question, voilà, c'était, en fait, je vais compléter parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Tu m'as dit qu'en fait, tu m'as repris quand j'ai dit artiste, parce qu'en fait, tu m'as dit que c'était un peu lourd à porter. Et moi, je vais te dire une chose, je complète. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser un peu, je sais pas si tu as vu, à Gainsbourg, quand il disait, en fait, que c'était très lourd à porter pour lui le terme d'artiste, parce que lui considérait la chanson comme un art mineur,
ouais.
Par rapport à la peinture que lui considérait comme un art majeur.
Et en fait, ça fonctionnait pareil, c'est que moi, je vais me dire, mais non, Gainsbourg, t'as complètement tort, ton art, il est majeur, en plus que j'adore Gainsbourg. Mais non, le plasticien, pour moi, ça a quelque chose de pratique, de technique. C'est que je sais maîtriser quelques outils d'art plastique, voilà. Après, le statut d'artiste, c'est un truc qui s'obtient, mais c'est pas un diplôme, ça. Et donc, j'adore forcément que les gens me qualifient d'artiste,
ouais.
Mais j'attends qu'ils me qualifient d'artiste. Et donc, c'est vrai que pour être plus clair avec les gens, parfois, je suis obligé de dire, je suis artiste, mais en vrai, je préfère que ce soit les autres qui le disent que moi.
Et ça vient,
je suis officiellement architecte d'intérieur, scénographe, ça c'est vrai. C'est un diplôme.
Et architecte, tu veux par diplôme aussi?
Oui, tout à fait.
Oui,
Intérieur.
architecte d'intérieur, ouais.
Ouais, mais ça, genre, c'est pas pour valoriser ce truc-là, c'est un blanc que ça,
C'est la
c'est
facture,
quasi
c'est la,
contractuel,
ouais,
quoi, tu vois.
c'est contractuel, c'est la, ce qu'on appelle en bon français, en fait, de la nomenclature.
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, on sort pas des beaux-arts avec le statut d'artiste. On
Non.
sort avec des capacités.
Et c'est quoi justement, parce que je vais revenir en fait sur ce que signifie ton pseudo Incoy, mais parfaite transition. Finalement, ça s'acquiert comment par un en arrivant à acquérir un caractère universel aux choses ou en leur donnant, enfin, comment
De
on arrive à ça?
devenir artiste?
Ouais.
Ah, ben, on le devient quand il y a des... En fait,
Par la
moi, je vais développer ce
reconnaissance.
que j'appelle une démarche artistique.
Ouais.
Sans espoir d'eux, mais enfin, on pourrait imaginer que c'est dans l'espoir d'atteindre le statut d'artiste, en fait. Et le statut d'artiste, je considère qu'il va être, comment dire, il va exister à partir du moment où un certain nombre de personnes vont considérer que ton boulot est intéressant, intelligent, représentatif de quelque chose, qu'il exprime une histoire, qu'il touche des gens, et que moi-même, je suis suffisamment fier de mon boulot pour, voilà. Et là, je me dis, là, j'ai peut-être atteint quelque chose et,
Ouais.
si les gens disent que je suis artiste, je l'accepte.
Mais justement, parce que ton pseudo, parce que je t'appelle Nicolas en vrai, ton pseudo Inkoi, ça veut dire, ça vient, c'est encre en espéranto. Alors, je
Et au
fais un,
pluriel.
et au pluriel. Alors, je fais un bref rappel pour nos auditeurs. L'espéranto, c'est une langue qui avait ou a vocation à devenir, je vais pas rentrer dans le débat, d'être universel. Ça a été créé par un médecin ophtalmologue, je crois, qui s'appelle Lazare Zamenhof à la fin du 19e siècle, en 1890. Et donc, cette langue qui est basée sur une grammaire, on va dire, assez simpliste, avait vocation ou a vocation à supplanter en fait ce qui est devenu le rôle de l'anglais aujourd'hui en tant que langue universelle. Donc j'imagine que finalement c'est aussi pour ça que tu as dû choisir ce pseudo d'artiste.
C'est exactement pour ça, en fait. En fait, moi, j'ai pas vraiment choisi un pseudo d'artiste. Aujourd'hui, enfin, ce qu'ils appellent dans cet art, c'est le blaze.
Ouais.
Donc, c'est le nom d'artiste, c'est le blaze, c'est le nom derrière on se cache quand on fait des trucs à peu près illégaux, quoi. Ce qui permet d'être reconnu par ses pairs, mais pas par la justice, disons. Enfin, par les autorités, plutôt. Donc, non, en fait, moi, quand je suis sorti de l'école, je me suis installé en indépendant et je voulais trouver un nom, pour mon site internet, qui est pendant mon activité, mais pas mon blaze, réellement.
D'accord.
Et donc j'avais réfléchi à plein de trucs. C'est comme tatouer, ce qui est mon cas. Ça m'a pris des années pour trouver le bon motif, quoi. Et donc là, l'idée, c'était de se dire que enfin, je suis parti du principe que l'art était un langage universel, qu'il existait une langue universelle. Donc je pouvais aller chercher dans ce truc-là. Ensuite, je m'appelle Nicolas. L'abréviation la plus simple, c'est Nico. Et en fait, il existait le mot Inko, Inko, qui veut dire encre au singulier en espéranto, et qui était l'anagramme de Nico. Sauf que ce qui me manquait, c'était que pour faire de la créa et faire des mélanges, il faut plusieurs couleurs. Donc, il
Bah
fallait
oui,
plusieurs encres. Donc, c'est au pluriel.
le côté au pluriel, ouais, c'est
Voilà.
ça.
Donc, c'est devenu Inkoi. Le petit truc, c'est que ça s'écrit Inkoj avec un J, qu'en
Oui.
fait, en espéranto, ça se prononce Inkoi. En fait, l'espéranto, c'est quand même, on voit un gros mélange d'anglais et d'espagnol qui étaient, parce que maintenant, je crois que c'est le chinois ou le russe,
C'est ça.
le chinois, je crois, mais les deux langues les plus parlées à l'époque.
Pour continuer à retracer le fil, c'était venu dès l'enfance, tu as été passionné par l'art, la peinture, la scénographie dès l'enfance, ou comment ça s'est
Ah, donc tu
construit?
veux vraiment remonter plus loin, alors?
Bah oui, on a le temps, hein. C'est un podcast, ça dure une demi-heure, c'est pour ça que tu as le temps, moi j'ai pas 5 minutes.
Ah ouais. En fait, j'ai une facilité pour le domaine de l'art, voilà. Mais alors ça vient de façon innée, mais ça vient aussi de ma culture ou de mon éducation en tout cas. C'est-à-dire que mes parents étaient tous les deux, enfin sont d'ailleurs tous les deux encore artistes, plasticiens, peintres, disons,
D'accord.
voilà. Mais aussi ils étaient profs d'art plastique et d'histoire de l'art. Donc ce qui fait
Les chiens font
que
pas des chats. Enfin.
c'est un petit peu ça. Enfin, dans mon cas, c'est ça en tout cas. Après, il faut trouver des manières de se différencier, ce qui a été le cas. Donc, en fait, j'ai des facilités en dessin depuis très très longtemps.
Ouais.
Pour le reste, j'étais feignant et mauvais, je sais pas dans quel ordre. J'étais peut-être feignant parce que j'étais mauvais, ou j'étais mauvais parce que j'étais feignant, je sais pas, mais en tout cas, ma seule vraie, vraie qualité, en dehors du français où je suis assez à l'aise à l'écriture, c'était les arts plastiques, quoi. Donc voilà, tout mon enfance se passe comme ça, avec des facilités de dessin, sauf que le moment où il faut se différencier de ses parents, bah, c'est délicat parce qu'ils sont tous les deux dans les arts et que moi-même je veux être dans les arts. Ce qui fait que j'ai pris une orientation. Alors, je suis allé aux Beaux-Arts parce que je voulais me libérer du système lycée qui me saoulait, parce que j'étais pas bon. Hein. J'ai redoublé deux fois, je me suis fait virer, j'ai raté mon bac, etc. Enfin, rien de bien particulier, hein, ça arrive à plein de gens. Mais il fallait que je change le système. Du coup, je suis parti aux Beaux-Arts. Donc là, j'ai rattrapé la partie très artistique qui est au fond de moi. Mais de nouveau, pour être différent de mes parents, je suis parti sur l'architecture intérieure. Parce que ça, c'est un autre truc que je maîtrise, c'est le volume. Voilà, je sais me projeter dans du volume. Et donc, je suis allé là-dedans. Et en fait, tout ça te rattrape à terme. Et en fait, voilà, donc je suis dans les arts appliqués et dans les arts plastiques. Et quand je fais des arts plastiques, ils sont extrêmement cadrés comme va le faire un architecte. Et quand je fais de la scénographie, puisque c'est principalement ça que j'ai fait, donc ça, c'est dans les musées ou les grands espaces de coworking ou start-up. Eh ben, on va retrouver une touche très plasticienne. Je vais me libérer sur des plafonds, des types de matériaux, etc.
Et alors, je me disais, quand tu fais tes premières œuvres ou tes premiers essais, quel regard justement ils ont tes parents, puisque tu voulais te différencier d'eux. Donc, quel regard ils pouvaient avoir?
Alors c'est progressif tout ça, mais parce qu'en fait quand tu sors, enfin d'abord j'ai fait des études où dont ils étaient, enfin non mais c'est nul de dire ça, mais
Y a rien de mieux.
non mais c'est parce qu'en fait mes parents par exemple étaient vachement fiers de mes études parce que j'ai fini dans une grande école parisienne d'architecture intérieure, donc c'est Olivier de Serres, Caliculant de Boulle, tout ça quoi. Donc en fait ça suffisait déjà à leur dire que à se dire que j'avais atteint quelque chose pour moi, hein, pas pour moi, et que voilà, donc je me révélais dans ce truc-là. Après, quand je suis sorti d'Olivier Serres, j'ai tout de suite trouvé du boulot parce que c'est des grandes écoles et que on t'attend pas à la porte, mais c'est un peu ça. Quand t'es en tout cas très volontaire, ce qui était mon cas. Donc moi, en septembre ou en novembre suivant, je bossais quoi. Et j'ai bossé pendant 2 mois en CDD et je l'ai quitté. Et de là, je me suis mis en indépendant. Donc j'ai bossé 2 mois. Et sur cette période-là, ben tu te cherches quoi, puis tu trouves les boulots que tu peux trouver mine de rien, parce que t'es tout seul au milieu de Paris, t'as pas vraiment de réseau quand même.
Oui, parce que de base, t'es parisien, c'est ça.
Non, de base, moi, je suis breton.
D'accord.
Donc, mes études m'ont emmené juste dans plein de
Juste,
villes,
ouais.
dont
Bon, pareil.
Rennes, Caen, Lorient et Paris. Et donc, après, je me suis installé à Paris.
Ouais.
Mais donc, les premiers boulots, il n'y a pas réellement de fierté. J'ai fait du graphisme pour le siège de Monoprix. Je bossais pour un petit théâtre en bénévole, un théâtre de marionnettes. Donc, j'ai fait plein de trucs comme ça. Les premiers grands moments, c'est quand on m'a confié un musée à scénographier, quoi. Là, effectivement, mais là, il y a une fierté de mes parents de se dire, il a aménagé 500 mètres carrés dans un musée à Poitiers, sur une exposition de la Renaissance.
C'était la première vraie scénographie que tu avais faite.
Ah ben, c'est la toute première, d'ailleurs, ouais.
Ouais, et c'était
Le
quand?
premier essai, on a commencé par un petit peu grand, d'ailleurs.
Ouais, et c'était quand?
Je sais plus. J'ai pas la mémoire des années. C'est il y a très longtemps.
Ah ouais,
Ouais.
donc
Enfin, c'était il y a, quand je dis très longtemps, ça fait,
15 ans,
c'est entre 10 et 15 ans.
ouais, voilà, c'est pour tirer un fil, parce que j'avais vu que tu avais fait les études que tu as décrites jusqu'en 2001, 2002, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais,
Ouais,
ouais.
2001, je crois.
Et donc après, oui, effectivement, c'est ce que tu dis, tu as fait petit boulot, être graphiste pour Monoprix, et
Bah ouais,
après,
bah tu gravis les échelons
voilà, c'est ça,
comme
gravé
tout le
comme dans
monde.
n'importe quel métier.
Voilà,
Voilà, c'est ça, quoi.
on n'arrive pas directeur de création,
Non.
comme beaucoup de gens le veulent.
C'est parfait comme transition, ce que tu es en train de me dire là, parce que il y a beaucoup de gens, et je le dis dans beaucoup d'interviews, et quel que soit le profil que je peux rencontrer, mais surtout quand on a affaire à des indépendants, c'est beaucoup cette chose-là, c'est que beaucoup de gens peuvent rêver, je dis nos vies, parce que je le suis aussi, mais d'autres indépendants, créateurs que j'ai pu rencontrer, rêvent nos vies parce que ce qu'on met sur Instagram, moi j'adore la photo, c'est beau, on se dit, si la personne a une vie facile tous les jours, alors qu'en fait c'est pas le cas. Hein, voilà.
Non, elle est pas plus compliquée qu'un cas d'autre, mais elle est
Voilà.
particulière.
La liberté a un prix, finalement. Voilà.
Oui, bon, non, mais il a pas un prix qui coûte plus cher qu'un salarié, hein, c'est pas, c'est juste que c'est pas les mêmes contraintes, quoi, et qu'il faut avoir un tempérament pour les assurer.
Histoire de continuer à tirer le fil, tu arrives à peu près quand, Armand?
Alors, nous on a quitté Paris il y a exactement 7 ans.
Ouais.
Pour des raisons diverses et variées, et voilà. Enfin, c'était à l'époque, c'était 1 an après les attentats, par exemple. Donc voilà,
Les
ça.
attentats de 2015.
Ouais.
Ok.
À Bataclan, donc voilà, tout ça était donc une ambiance à Paris, hein, on n'était pas très très loin, et donc c'était un petit peu loin, et puis des trucs personnels. Donc on est arrivé à Rouen il y a 7 ans, mais pendant 3 ans, moi j'ai continué tout, parce qu'on a, donc j'ai encore un logement à Paris, j'ai continué à aller toutes les semaines à Paris dans mon atelier qui était dans le 19e.
Ok.
Donc j'habitais dans le 20e. Et donc je partais du mardi au jeudi à l'atelier, et puis je finissais de travailler ici à la maison enfin et en début de semaine, quoi. Je passais le week-end en famille. Et puis il y a eu le Covid.
Ouais,
Et pendant le Covid,
forcément.
bah, en fait, on payait un atelier hyper cher qui était constamment vide. Et donc avec le pote avec qui on était, enfin le pote de l'ami avec qui on était, on a décidé de lâcher l'atelier et de chacun se retrouver un truc. Plus proche, quoi. Donc lui, c'est trouver un autre truc à côté de Paris, et moi, du coup, à Rouen, tout bêtement. Donc ça fait maintenant 4 ans, je crois, que je
Ouais.
suis vraiment entièrement basé sur Rouen, en dehors du fait que j'ai gardé encore ce logement et ce CHSL à Paris.
Et quoi, Rouen spécifiquement, juste pour la proximité, ou il y avait quelque chose qui t'intéressait particulièrement dans le domaine artistique,
Ouais,
quelque chose qui
si je me
t'attirait?
trompe pas, il y a à peu près 3 critères qui me viennent comme ça. Un, la proximité, parce qu'il fallait que je retourne à Paris.
Ouais.
Deux, mais c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que la ville était superbe. En fait, nous, c'est un jour de crise où en fait on a débarqué à Rouen. En fait, je suis un petit gars du bord de la mer. Moi, je suis né à Saint-Brieuc en Bretagne.
D'accord.
Et donc, il y a eu un moment de crise très très long quand on était à Paris, qui a décidé de notre départ. Et un jour, voilà, quand moi ça va pas bien, il y a un moment, faut que je voie l'horizon, parce qu'à Paris, on voit jamais l'horizon. Tu montes sur la hauteur de Belleville, tu vois loin, mais tu vois pas loin avec le nuage de pollution. Donc en fait, tu vois pas.
C'est ça.
Donc j'ai sauté dans le train et on est venu jusqu'à Rouen, et de Rouen on a pris un train pour aller à Dieppe. Voilà. Dieppe, je me posais mon cul sur les galets, j'ai regardé l'horizon, et de là avec ma compagne, on a décidé de qu'il était temps de bouger, en fait. C'était ça le truc, c'est qu'il fallait bouger. Et donc on est revenu sur Rouen, c'était un week-end, il faisait super beau comme aujourd'hui là. Et en fait, on s'est dit, waouh, ouais, mais la ville, elle est trop canon. Enfin, c'est hyper piétonnier alors qu'on voulait du calme. C'est à 1h15 à l'époque. Parce que maintenant, c'est
Oui,
plus le cas.
oui.
Le
On le
pire, c'est que
rappelle.
le monde va de plus en plus vite, sauf le train, lui.
Ouais.
Et on s'est dit, voilà, donc c'est à proximité de Paris. Donc il y avait le calme, la proximité et la beauté de la ville, quoi. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est là qu'on vient, quoi. Et pas trop, trop loin de la mer, en fait. Parce que du coup, ça nous rapprochait de la mer. Même si on n'y va pas hyper souvent, mais.
Prolonge ma question, quand tu es arrivé à Rouen, il n'y a pas un monument spécifique qui t'a fait genre un peu waouh? Quelque chose qui a envie de te dire, j'ai envie de travailler aussi ici, particulièrement ou pas du tout?
C'est pas les monuments en eux-mêmes, en fait. Bah, évidemment que, d'ailleurs, je sais pas si je mettrais la cathédrale avant le Page du 6, seulement le Page du 6 me scotche. Bah, en plus, là, je l'ai vachement étudié pour la Jeanne d'Arc, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vus depuis que je suis là. Alors, quand on s'arrête dans les détails, j'étais, non, je sais pas ça. Non, non, c'est que la ville, globalement, est vachement belle, quoi. Elle est très, très piétonne, et à Paris, c'est un truc qu'on connaît pas.
Ouais.
Là maintenant, le Marais est très piétonnier, mais c'est maintenant, quoi. Moi, je vivais dans le 20e, mais là où j'habite encore. Et en fait, c'est très très commerçant, donc c'est super, mais c'est pas du tout piétonnier, quoi. Et là, c'est cet ensemble, en fait, tout le centre-ville là, qui fait cathédrale, place du Vieux aussi, bien sûr, tout ça, mais jusqu'à la place Saint-Marc, c'est en dehors de Jeanne d'Arc et République, on est tout le temps à pied, quoi, et à la main. Et c'est ça qui m'a séduit.
Tu arrives rarement, donc on est. On m'a dit la période autour de 2020, Covid, crise, etc. Tu commences pas un peu à travailler, à faire tes fesses un peu comme un voleur finalement, c'est-à-dire quelqu'un qui demande au début aucune autorisation et commence à travailler comme ça. Et puis à un moment donné, je crois que tu as fini par contacter la mairie, non? Ou,
Ouais, c'est
ça
ça.
s'est passé comment en fait?
Ouais. Mais en fait, ça se passe. Alors moi, il y a un truc qui est assez naturel, c'est que je vais avoir 2 manières de développer mon boulot. C'est soit j'ai des clients qui me demandent des choses, et donc je réfléchis à comment bien répondre à la chose. En fait, il faut comprendre que moi, je n'ai pas d'œuvre personnelle.
Parce que tu t'es dit que tu t'es dénoncé à la mairie.
Ouais. Mais en fait, tout ça, c'est une organisation un peu de vie
Ouais.
et d'atelier, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas d'œuvre personnelle. Et tu prends plein d'artistes, de Picasso à Jordan Sagey, ils ont un graphisme et ils le développent, voilà. Mais c'est leur graphisme. Après, qui aime, achète, et voilà. Moi, j'ai pas ça. Moi, je traite comme un architecte, on me donne un sujet, un cahier des charges, et j'y réponds avec ce que je sais faire. Donc, c'est du dessin, du motif, de la peinture, voilà. Mais ce que je sais faire simplement. Donc, j'ai deux manières de développer. C'est soit un client me pose une question, et donc j'essaie d'y répondre graphiquement. Et donc ça, je vais travailler, donc je vais prendre connaissance de certains éléments. Soit je fais des recherches pour moi-même, qui sont juste pour moi-même. Et il s'avère qu'elles plaisent et elles se développent. Et donc ça fait deux fois que ça m'arrive ça. Ça m'est arrivé à Paris sur les fresques murales intérieures, où j'avais proposé à un copain de lui faire une fresque dans un bar, et puis derrière j'ai fait des fresques. Et là, pour donc rejoindre ta question, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment, j'ai repéré que dans mon immeuble, il y avait des carreaux de ciment. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est excellent, c'est vachement beau, mais c'est bête parce qu'en fait, c'est derrière la grosse porte brune là, de l'immeuble, et qu'en fait, bah, les seuls moments où quelqu'un d'autre peut en profiter que nous qui ne la voyons plus, c'est quand la porte s'ouvre, encore faut-il que tu aies tourné ton regard à ce moment-là. Donc, ce qui serait chouette, c'est de le reproduire et puis de le prolonger sur le trottoir comme s'il traversait le trottoir. Et c'est vrai, j'en ai fait 4, 5, je crois, comme ça, sans, enfin, je sortais la nuit, je me cachais entre les poubelles et les bagnoles. Et le problème, c'est que quand tu sors et que tu fais du pochoir, à ce niveau de complexité-là, c'est qu'en fait, pour un motif, tu as entre 6 et 10 pochoirs. Et tu vas tout le temps partir avec au moins 2 ou 3 pochoirs de chaque, parce que si tu l'abîmes, si tu as trop de peinture, faut que tu en aies un autre de neuf. Donc tu pars facilement avec 15 ou 20 pochoirs, et si tu te fais gauler, eh ben en fait, soit tu te barres en courant et t'abandonnes tout, et c'est beaucoup de travail que tu as abandonné, soit tu tapes une amende. Donc, effectivement, au bout de 5, comme je voyais que ça plaisait pas mal aux gens sur les réseaux. Bah en fait, je suis allé voir la mairie, effectivement, pour me dénoncer, comme je le raconte. Mais par contre, en échange, je leur demandais l'autorisation. Voilà. Et c'est ce qu'ils m'ont donné.
Donc ouais, donc c'est ce que c'était pour le moment de ma question. Donc ça a été plutôt bien accueilli au départ, ouais.
Bah, très bien, ouais, très bien. Mais en fait, c'est une autre manière de pratiquer. C'est que moi, j'ai pas cette culture du street artiste qui va graffer en douce dans les friches ou en ville et de façon illégale. Et ce qui peut être très bien, je veux dire, c'est dire, c'est il faut s'exprimer. J'ai plutôt la technique, j'avais déjà mise en place à Paris, c'est de monter un projet, mais ça c'est typique de l'architecte, il monte un dossier, etc. Il va voir, j'étais allé voir la mairie du 20e, tout comme je suis allé voir la mairie de Rouen, et je leur ai dit, voilà le projet, c'est ça, c'est hyper carré, c'est respectueux de ceci, ceci, c'est gratos, ça vous coûte rien, tata. Est-ce que vous pouvez accepter? Bah, à partir de ce moment-là, souvent les gens les acceptent. Donc après, effectivement, c'est bizarre d'avoir entre guillemets un site artiste qui a des autorisations. Mais bah en fait des fois il suffit de poser la question quoi. En fait c'est je plais à deux publics très très différents et de fait au troisième qui est le centre. Donc les jeunes je vais leur plaire par exemple ça. Ça va leur plaire parce que je fais de la bombe. Et la bombe c'est un côté graffeur machin que ça donc c'est cool. Et donc ça peut plaire quand je fais des ateliers. Le premier truc qu'ils veulent c'est faire de la bombe. Tu vois c'est pas m'écouter raconter ma life quoi. Et je vais plaire à une génération beaucoup plus âgée dont je commence à faire partie parce que il y a une reprise du patrimoine, de la culture, j'ai une référence à quelque chose, etc. Donc ça raconte une histoire. Et en gros entre les deux c'est à peu près pareil quoi. Celui qui a une mentalité jeune et un peu intéressé,
Mais c'est quoi
il accueille bien
finalement?
quoi.
C'est quoi finalement ce côté? Il me semblait avoir lu quelque part que c'est ce que tu avais dit, mais c'est ce que aussi des gens comme moi ou d'autres peuvent penser, c'est que finalement le côté, il y a le côté du patrimoine qui moi m'anime, c'est le côté transmission, c'est-à-dire le côté que ça a du vécu, c'est une histoire, c'est des gens qui ont conçu ces bâtiments ou les pavés ou les rues sur lesquelles tu peux travailler et sur lequel finalement tu ajoutes ta patte, c'est aussi une manière de faire redécouvrir la ville aussi d'une certaine façon.
Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, j'adore l'artisanat. Enfin, je trouve ça que c'est formidable, quoi. À aucun moment, on devrait dénigrer l'artisanat. C'est lui qui a construit les villes. Donc,
Parce que tu trouves qu'on ne veut
aujourd'hui,
pas
c'est...
rentrer dans un aspect politique, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais tu trouves qu'aujourd'hui on dénigre l'artisanat?
Non, ça revient. Maintenant, ça revient parce qu'on est sur les métiers d'art, on aime la déco, on aime les trucs authentiques, etc. Mais il y a eu quand même tout un... enfin, et c'est encore le cas d'ailleurs, mais il y a quand même des décennies où il faut rentrer dans des grandes écoles, il faut surtout pas faire du manuel, etc. Enfin, je veux dire, les maçons, ils ont construit nos villes avant qu'on invente le parpaing. Et encore, je veux dire, le maçon pose encore du parpaing. Sauf qu'à l'époque, il y a eu une époque où le maçon, il avait sa part de création. Je dis ça parce que rue Eugène Dutuy, donc, dans ce fameux quartier Saint-Marc, il y a, je pense, le boulot le plus simple que j'ai pu poser, mais qui est le plus efficace. c'est qu'il y a un manoir magnifique qui est fait de pierre et de briques. Et tout le mur et tout le manoir, le mur d'enceinte et le manoir sont faits comme ça. Donc, et les maçons qui ont posé ça ont posé donc un bloc de pierre, ça fait un damier, et puis un bloc animé avec des briques. Et ils ont fait ça en épis, ils ont fait ça de façon orthogonale, ils ont fait ça dans tous les sens, et
Ouais.
chaque carré est différent du carré voisin, quoi. Et ça, je l'ai peint au sol parce que, donc, l'exemple, c'est ça, c'est que cette forme d'artisanat qui est aussi vraie pour celui qui fait des carreaux ciment, c'est revenu à la mode il y a une dizaine d'années, les carreaux ciment, mais voilà. Et ben, en fait, il faut le regarder et se rendre compte à quel point c'est beau et que c'est pas juste un produit manufacturé qui est sorti d'usine, quoi. Donc, sortir ces éléments-là dans la rue, c'est les remettre en valeur et remettre en valeur un truc d'artisan. Sachant que moi, j'ai ma phase d'artisanat, en fait. Toute ma partie créa, c'est de la créa, ok, c'est de l'intellectuel. Il y a un moment, quand je viens et je suis à quatre pattes avec mes pochoirs,
Ouais.
je suis un artisan, en fait.
Mais justement, tu dis le mot, et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est que finalement, tu l'as dit, tu as parlé de grandes écoles, mais ce qui est important de préciser, c'est que tu viens dire, dans toute la création, dans tout métier manuel, il y a aussi de l'intellectuel. C'est ça qui est aussi important à rappeler. C'est bien aussi qu'on puisse un peu contrer les stéréotypes qui diraient que bah, quelqu'un qui exerce un métier manuel, c'est pas quelqu'un qui réfléchit, ou puisqu'il a pas fait d'études. Il y avait souvent cet adage-là aussi pendant des décennies, comme tu dis, que puisque tu n'as pas fait d'études ou que tu n'as pas le bon diplôme, veut dire que t'as rien dans la tête et t'es destiné à faire que du métier manuel, mais dans un sens dévalorisant et
Tout à fait,
alimentaire,
ouais,
quoi.
tout à fait, ouais. Mais c'est ce qu'on a voulu faire croire à plein de gens. Bah, d'ailleurs, on a transformé les métiers comme ça. Enfin, ça devient politique comme propos, mais
Oui.
voilà, on a commencé à dire aux gens, tu n'auras, enfin, c'est le travail à la chaîne, hein.
Ouais.
T'as que ça à faire. Donc, là, effectivement, t'as pas à réfléchir, ouais. Mais en fait, l'artisanat, il n'est pas fait de ça.
Continuons de tirer le fil et arrivons donc faire ce fameux projet donc de la rue Jeanne d'Arc. C'est-à-dire ce projet hein, enfin, qui a depuis donc abouti puisque tout le monde le voit. Ça fait plus d'un an maintenant. C'est ce qu'on se disait.
Exactement, non, ouais.
Ça fait exactement un an. Alors, c'est, tu me l'as dit hors antenne, je crois, c'est la plus grande fresque routière de France, c'est ça, sur 750 mètres?
En tout cas, il y a un article de presse spécialisé en urbanisme qui l'évoque dans son article.
Comment, en fait, parlons donc, puisqu'on continue à tirer le fil au cours de cet entretien, comment est venue, en fait, la genèse de ce projet? Ça s'est passé comment? En fait, en gros, on t'a contacté, la métropole t'a contacté un matin, enfin, ça s'est fait comment exactement? On t'a dit, bah, tiens, on aime ce que tu fais, est-ce que tu peux nous aider à faire une mise en beauté, une mise en valeur de la rue Jeanne d'Arc dans le cadre de notre projet, ou ça s'est passé comment exactement?
Mais en fait, il faut rebondir sur l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, qui est que je suis allé voir la mairie pour leur présenter mon travail et qu'ils m'autorisaient à le faire. À partir du moment où ils m'ont autorisé à le faire, j'ai continué à le mettre en pratique. Et suite au Covid, il y a eu, quand les bars ont réouvert, les restaurants ont ouvert, on m'a passé une commande qui était la peinture de la rue Aude Robec, la partie piétonne, sur 6 terrasses de restaurants parce qu'ils voulaient redonner de la vie, annoncer que ça ouvrait, etc. Et puis de là, voilà, il y a quelques entités qui m'ont demandé des fresques. Toujours pareil sur le thème du patrimoine. Donc en fait, j'ai commencé à installer dans la ville cette image de quelqu'un qui va traiter du patrimoine, mettre en valeur la ville de Rouen. Blablabla. Donc quand la métropole a voulu a lancé le chantier de la rue Jeanne d'Arc, eux ils avaient en tête qu'ils allaient faire une mise en couleur de la rue. Et du coup, ils ont pensé à moi pour la mise en couleur, puisque tant qu'à mettre de la couleur, autant qu'elle ait du sens, quoi. Voilà. Donc c'est pas un coup de fil direct parce qu'il y a des services et des machins individuels,
Bien sûr.
mais effectivement la métropole a pris contact pour me demander de monter sur le dossier si j'acceptais et en partenariat avec l'entreprise de marquage qui était forcément sur le coup déjà.
Et donc ça se... En fait, on fait ça, donc bien entendu, mais c'est histoire de faire comprendre aussi comment ça se déroule. Tu n'es pas toi, Nicolas, tout seul en train de faire des pochoirs. Il y a une entreprise donc de marquage au sol. En fait, ça se passe comment? Ça se déroule sur combien de temps? Explique-nous un peu comment ça s'est fait.
Alors, comment ça s'est fait? J'ai 3 étapes. Il y a l'étape de la commande, l'étape de la création et l'étape de la réalisation.
Là, on est en 2021, 2022, c'est...
Ah si, alors attends. La rue Jeanne d'Arc, elle a 1 an et je crois que le dossier, on l'a monté en 2 ans. Je crois que c'était depuis à peu près
D'accord.
2 ans pour faire la rue Jeanne d'Arc. Tout compris. Donc en fait, la métropole m'appelle, elle me dit, votre démarche artistique nous intéresse, faut faire une mise en couleur de la rue, il faudrait intervenir sur les 5 carrefours
Ouais.
de ce tronçon de la rue. puisqu'en fait ça me va jusqu'à la gare, mais là au-dessus il n'y a pas de commerce quasiment, donc il n'y a pas d'intervention. Une fois, donc là j'ai commencé les maquettes, et quand j'ai présenté les premières maquettes, alors il n'y a eu aucune remarque de on veut pas ci, on veut pas ça, c'était des ajouts à chaque fois, c'était ah mais c'est super, sauf que il faudrait aussi en mettre entre les carrefours, parce qu'on voudrait vraiment que les voitures se rendent compte qu'elles sont rentrées dans un univers et qu'elles passent pas leur temps à en sortir, à en rentrer, à en sortir, à rentrer. J'ai dit ok, d'accord. Puis après, ah mais il faut démonter sur les trottoirs pour que ça prenne un peu d'ampleur, non, non. Voilà. Bon, fin du brief. Donc il y a de la créa pendant ce temps-là, hein, mais donc la commande ça a été les carrefours entre les carrefours plus les trottoirs. Ensuite il y a eu toute la partie créa, donc la partie créa ça m'a pris pas mal de temps parce que à chaque carrefour il fallait que je trouve la source patrimoniale que j'allais mettre en valeur. Et je sais qu'il y en a un que j'ai retouché, mais même pas une semaine, j'ai entièrement refait avant la présentation finale. C'était le page justice, parce que page justice ça n'allait pas. Et en fait il fallait aller fouiller plus loin, et donc c'est dans les cours d'assises, dans le plafond des cours d'assises, que j'ai trouvé la source, quoi. Et une fois que ça s'est fait, effectivement on réalise pas une rue de 750 mètres de long tout seul avec de la matière comme de la résine. Donc là il y a une entreprise Kangourou du groupe Helios qui est donc sur Rouen, et qui a tout réalisé. Donc là on passe sur, après il y a des sous-étapes, mais il y a du dessin, de l'adhésif et la pose de la résine. De nuit, uniquement de nuit.
Uniquement de
pour
nuit.
Pas condamner la Jeanne d'Arc pendant, et ça a duré 6 semaines.
Voilà. Donc 6 semaines, ouais, le temps de tout poser. Et donc ça nous fait arriver en juillet.
Juillet 2022.
En juillet 2022, des cryptes.
Si tu veux. Ouais. Alors si je réponds, faut choisir un ordre, en fait, le plus simple. Donc on va partir de la Seine, par exemple. Alors dans le sens de la Seine, en fait, il y a deux histoires qui sont deux histoires. Enfin, il y a on va les appeler comme ça. Donc il y a deux histoires qui sont racontées. Il y a l'histoire du patrimoine et après il y a l'histoire des éléments. C'est qu'en fait, sur les carrefours, je m'attache à illustrer un objet architectural. Donc, dans l'ordre, si on parle du bas de la rue, ouais, on a donc la tour Saint-André, j'allais dire Saint-Jacques, mais
ouais,
c'est à Paris.
C'est Saint-André.
La tour Saint-André qui est de style gothique. Ouais. Donc, si vous regardez la tour Saint-André, vous voyez que ses baies sont à arc brisé, donc en forme d'ogive, et qu'il y a une forme de nervure à l'intérieur. Donc je reprends ces nervures-là, je les pose sur le sol, et le centre de la fresque, c'est le plan de la tour. Donc c'était une tour carrée avec quatre contreforts à chaque angle. Enfin, un contrefort à chaque angle. Donc voilà. Ensuite, on passe au carrefour du Gros Horloge. Le Gros Horloge, c'est, beaucoup de gens ont reconnu, le soleil qui y est sur le Gros Horloge.
C'est ça.
Ensuite, on est au Palais de Justice. Et là, on a deux carrefours qui encadrent le Palais de Justice. Et donc, ce sont les plafonds à caissons de la cour d'assises.
Ouais, c'est ce
qui sont reproduits sur le sol. C'est les formes les plus complexes qu'on ait à faire. Et tout en haut de la rue, on est Bons Enfants Gantry. Et là, là, ce sont des motifs à colombages, parce que dans les deux rues Bons Enfants Gantry, il y a des colombages. Et de toute façon, c'est une architecture typique de Rouen, quoi. Et si je redescends là où je peux je redescends la rue, donc je pars à l'inverse, c'est que donc on a bossé sur les quatre éléments. Donc le premier c'était la terre, parce qu'on avait le square vernal qui était juste au-dessus, donc on n'a pas fait des formes brunes, mais on a fait du feuillage qui rappelle la terre. Ensuite sur le Palais de Justice on a l'air, ça c'est l'aspect tout intellectuel de Palais de Justice.
Ouais.
Ensuite on a le feu, parce que le soleil tout bêtement du Gros Horloge, et ensuite on a l'eau parce que la Seine qui est en bas. Ce qui, du coup, a justifié aussi les couleurs, et je remonte la rue. On a un bleu pour le différencier de l'air, donc on a un bleu qui est un peu plus turquoise sur le bas de la rue. On a un jaune d'or qui est soleil, qui est ocre maintenant. On a un bleu clair pour l'air, et on a un vert pour le feuillage et la terre.
Ouais. On va y revenir, justement, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait commencé par dire hors antenne, mais donc on va le dire pour nos auditeurs, tu le précises, c'est-à-dire le jaune d'or qui est devenu ocre.
Ouais.
C'était ce que tu me disais, c'était en fait quelque chose, c'était la couleur que tu voulais, c'était la couleur que tu voulais à la base, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, comme si une roue, il y a une voiture qui circule, on sait pertinemment que la couleur ne peut pas rester telle qu'elle est posée quand elle est neuve.
Ouais.
Donc en fait, quand on choisit une couleur, on envisage sa couleur finale.
Ouais.
En fait, bien sûr qu'il y aura des traces dessus, et là je suis encore passé, moi, il y a des traces de pneus parce qu'il y a un camion qui est passé, et puis voilà, il y a une trace. Mais en fait, ces traces-là, elles vont partir. Quand on a sorti la rue Jeanne d'Arc, alors c'est par étapes, ça dure 6 semaines. Hein. Mais la nuit où on sort le soleil du Gros Horloge, par exemple, effectivement, il est resplendissant, il est jaune d'or.
Ouais.
Donc la déception de certaines personnes, c'est de voir qu'une semaine plus tard, il faisait très très chaud cet été-là,
ouais.
Il était plus jaune d'or.
Ouais.
Mais en fait, la vraie couleur qu'on attend, elle apparaît genre 3 semaines, 3 mois plus tard, quoi. C'est qu'en fait, il faut que les gens roulent. Le lendemain, les gens, ils roulent et ça laisse une trace. Mais au bout d'une semaine, déjà, ils ont roulé un peu plus partout. Ça laisse 15 traces qui commencent à se croiser. Et au bout d'un mois, il y a des traces partout. Donc déjà, c'est homogène. C'est sale, mais c'est homogène. Et là, la pluie va finir par arriver. Parce que forcément, l'été a une fin.
Oui.
Ou même des fois, il pleut en été. Et en fait, les voitures pataugent dans cette eau-là et nettoient la fresque. Et là, on atteint la couleur définitive, qui est donc un ocre. Mais c'est sûr que si j'avais posé un ocre tout de suite, on aurait atteint un truc couleur caca.
Écoulé, j'allais dire café.
Ouais, voilà, ou café, ou montage. On arrive à une couleur café. Donc trop sombre, en tout cas, pour le soleil. Donc on part d'une couleur qui est suffisamment vive, sans être trop claire pour autant, d'ailleurs, parce que sinon, elle change trop, pour atteindre la couleur définitive. Et entre les deux, bah oui, selon la météo, on peut être déçu. Mais au final, maintenant, on voit là au Jeanne d'Arc, la couleur est
Mais
homogène. C'est ça que je voulais.
ce que tu dis est intéressant et ça pose aussi une question tant sur le plan écologique que d'autres choses, la question de la durabilité. Est-ce que, par exemple, tu as conçu en fait ces fresques dans l'esprit qu'elles soient durables dans le temps? Pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut, alors, je rentre pas dans l'aspect politique, je rentre que dans l'aspect technique, hein, l'aspect politique, c'est autre chose. Dans l'aspect technique, est-ce qu'on peut s'attendre à voir encore les fresques routières d'Inkoï ou Jeanne d'Arc pendant encore quelques temps?
Oui. Elles sont posées là pour plusieurs années, ouais. Et oui, on est sur quelque chose qui va ressembler à 5 ans. Après, c'est pas aussi brutal que de se dire à 5 ans, elles disparaissent. Évidemment que non, quoi. Non, non, 5 ans, elles seront encore là. Elles seront un peu plus dégradées, évidemment, parce que
Oui.
ça circule quand même pas mal, mine de rien, j'adore, même si ça circule beaucoup plus lentement qu'avant. Mais elles seront encore là, oui. Et donc, la question cachée de la question, c'est la durabilité et donc l'aspect un peu écologique de la chose. C'est qu'en fait, la seule forme écologique d'une peinture qu'on va poser, mais c'est vrai pour le bitume, dans ce cas-là,
Oui,
tout est vrai, c'est qu'au moins elle dure, quoi. C'est pas un truc éphémère qui pollue beaucoup pour une durée de temps de 3 semaines, quoi.
ouais. Et justement,
Une durée de temps de 3 semaines,
oui,
quelle phrase
enfin, pour
moche.
une
Une durée de...
durée de 3 semaines, ouais,
Voilà.
c'est ça. Partagé.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'on est, je le rappelle pour les auditeurs, on est sur une zone où en voiture on circule à 20 km/h et où les piétons ont la priorité
Sur l'ensemble de la rue.
sur l'ensemble de la rue. Précise bien sur l'ensemble de la rue,
Mais partout, où ils veulent.
partout, voilà.
Ils peuvent traverser en perpendiculaire, en diagonale, ils ont juste pas le droit de circuler sur la voie, en linéaire.
Pour terminer sur le sujet, j'imagine que à ce stade, on t'a pas recontacté pour quoi que ce soit.
Pourquoi?
Oui, pour la rue Jeanne d'Arc spécifiquement, pour
Ah
des
bah non,
travaux
non, il n'y a
dans
pas...
le dans les futurs, il y a pour l'instant rien à faire de
Ah bah
particulier.
non, non, le truc il tient, on a une zone qui a été un peu brûlée pendant les manifs parce qu'il y a eu une
Oui.
poubelle. Bon, là, ça s'est pas tout à fait restaurable parce que le bitume aussi est attaqué, donc voilà. Mais sinon, non, non, là, bah, en fait, tout se passe bien maintenant pour la rue Jeanne d'Arc.
Je voulais aborder, avant d'aborder donc le thème de l'accessibilité qui forcément, et vous le savez, est cher à ma ligne éditoriale, en est au centre. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, en dehors de ce que tu as fait rue Jeanne d'Arc, quelle est ton actualité? Que fais-tu actuellement et quels sont tes projets pour l'avenir?
Mes projets pour l'avenir, non. Alors, ce que je fais actuellement, là, je suis en mode atelier depuis déjà plus d'une semaine et jusqu'à vendredi où je dois finir les compositions de 6 fresques. En fait, on m'a confié le siège social de médiamétrie, donc dans sa globalité, dans le sens où j'ai 5 fresques palières à faire et une fresque plénière plus la mise en couleur du bâtiment. Voilà. Donc là, je travaille sur ça. Et déjà prévu, il faut caler le calendrier, mais le projet est validé, il est sorti, etc. Donc une fresque routière, elle, donc parce que la médiamétrie c'est du mur intérieur, et là une fresque routière en Bretagne à côté de Rennes, dans la commune de Manroc. Et voilà, et on a un très bon contact. Enfin après, l'avenir c'est vaste parce qu'en fait il y en a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une école à Saint-Germain, il y a Brive-la-Gaillarde avec qui on travaille, il y a Bordeaux, il y a des, enfin voilà.
Mais alors,
Oui, donc c'est ça que je voulais rappeler. Médiamétrie, oui, je rappelle brièvement ce que c'est. Pour nos auditeurs, il s'agit. Ah, il y a quelqu'un qui
C'est
frappe?
la porte. Non, c'est la porte
Ah
derrière moi.
non, d'accord. Médiamétrie, c'est l'entreprise qui mesure en fait les audiences à la télévision et à la radio.
Télé, radio, web.
Ouais, télé-radio web. Et donc, c'est le siège social de Médiamétrie où on
À
t'a à
Levallois-Perret.
Levallois-Perret où on t'a passé commande. Alors, il nous reste un peu de temps et c'était un point vraiment que je voulais aborder puisque c'est ce que je te disais en fait hors antenne. Le côté en fait accessibilité. Et je voulais te remercier à plus d'un titre puisque c'est aussi pour cette raison que je voulais te recevoir. Parce que j'imagine que tu n'as pas l'occasion d'en parler souvent, des problématiques liées au handicap et à l'accessibilité. Mais en fait, ce qui m'a intéressé dans ta démarche, alors je ne sais pas si c'est plus ou moins volontaire ou non, mais tu nous le diras, mais c'est qu'en fait, moi le premier, et j'ai beaucoup d'autres gens, surtout quand on va à Rouen, surtout bah, quand on parle de patrimoine, et tu le fais remarquablement bien. Bah, c'est des monuments qui sont pas forcément toujours les plus accessibles. Et je pense que c'est aussi ce caractère-là, finalement, le côté un peu universel. C'est-à-dire vouloir aussi rendre le patrimoine, en fait, accessible à tout le monde. Parce que moi, quand je regarde ça, j'ai encore des fois tendance à me dire, t'es culture accessible à tous, bah en France on n'y est pas encore, quoi, factuellement. Et toi, en fait, tu contribues non seulement à faire redécouvrir la ville à des personnes valides ou non, mais tu contribues aussi à donner une idée de patrimoine, de style, à des personnes qui forcément dans la vie de tous les jours n'y ont pas forcément accès. Donc merci pour ça.
Ben non, je suis très heureux de l'entendre. Très heureux de l'entendre. En fait, moi, j'y pense pas. Alors, en fait, je suis obligé de prendre en considération une certaine forme de handicap parce qu'on est sur la voie publique. Voilà. Et il y a des codes.
Oui.
Dans certains cas, il y a des codes. Mais en fait, j'ai pas de. Je veux dire, c'est pas dans mon cahier des charges absolument de me dire, tiens, je rendrais bien les plafonds. Parce que là, on va parler de ce cas-là, parce que lui, il est vrai, parce que le reste se voit de l'extérieur. Mais les plafonds voie d'essence de la cour d'assises, effectivement, je sais pas s'ils sont accessibles. Ou en tout cas, pas facilement, ça c'est sûr. Et dans
C'est
tous les cas,
pas
ils sont,
simple,
et dans tous les cas, ils sont ouverts quasiment qu'aux journées patrimoine, sinon faut
hein.
aller à un procès, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc, mais je m'étais pas dit, ah, c'est cool parce que je vais rendre ça visible pour des gens qui ne peuvent pas accéder au palais de justice. Par contre, en fait, dans la globalité de ma démarche de rendre accessibles les choses, alors on peut l'apprendre du côté technique, mais aussi du côté intellectuel, c'est que moi je veux réellement refaire découvrir des choses à des gens qui ne les regardent pas. Donc il y a ceux qui ne peuvent pas aller les voir et il y a ceux qui ne les regardent pas. Et en fait, je me pose pas la question, mais ça peut tout à fait coïncider et en fait ça fait une seule et même population. Enfin d'ailleurs,
Bien
il
sûr.
n'y a pas à les découper la population, quoi. Donc
C'est le côté universel de
oui,
l'art.
c'est exactement ça,
Mais
voilà,
on y
c'est
revient.
exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, le boulot que je fais, j'aime à constater, parce que c'est vrai et heureusement, qu'en fait, il a deux lectures. Il a juste l'aspect, pour certaines personnes, évidemment pas pour 100%, mais c'est beau, par exemple, et c'est déjà bien. Les gens vont se dire, tiens, il y a de la couleur, c'est chouette. Et puis, il y a ceux qui ont accès à la deuxième lecture, qui est c'est une révélation d'un élément du patrimoine. Et là, du coup, il y a une histoire qui se raconte, quoi. Si on trouve juste que c'est beau, c'est déjà bien. Si en plus on a histoire, c'est encore mieux. Et pour l'aspect réellement personnes à mobilité réduite, donc les PMR, en fait, il existe des contraintes parce qu'on est en ville, et donc il y a des choses qui s'étudient avec le temps. Par exemple, il y a encore quelques années de ça, on savait qu'il fallait absolument dessiner des bandes blanches, par exemple pour les malvoyants, pour que les chiens les aident à traverser. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les chiens sont dressés à traverser sur
D'accord.
des zones de couleur. Ça a été vérifié à Saint-Sever, par exemple. La fresque n'est pas de moi, mais à Saint-Sever, où en fait ils ont pu mettre des ronds bleus, des zones jaunes, etc. Parce qu'en fait, les guides traversent sur ces zones-là. Donc déjà, il y a des contraintes qui s'en vont, mais on est obligé de faire attention à ça même.
Ouais. Et il y a aussi autre chose que tu voudrais
développer, par exemple, sur ce sujet, parce que
Là, sur le sujet, moi, il y a un truc alors, qui est idem, c'est pas directement lié aux mobilités réduites, mais par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on circule sur les frasques. Donc, que ce soit fauteuil, piéton, peu importe, chien, en fait, non, mais c'est une forme qui est assez particulière parce qu'en fait, quand vous faites du mural, c'est comme beaucoup de choses, ça s'expose en face de vous et on n'y touche pas souvent. Enfin, à moins d'être un vandale, mais par contre, sur le sol, on ne pouvait pas empêcher les gens de marcher dessus. Et alors, j'aime à penser que c'est une forme d'humilité de se dire on pose quelque chose au sol, surtout quand je fais de l'éphémère et qui va disparaître. Et en fait, tu as le droit de circuler dessus. C'est comme une aire de jeu, en fait, tu as le droit d'être dessus. Voilà.
Mais
Donc, elle est
finalement,
accessible dans ce sens-là où tu peux être dessus.
c'est un peu finalement, j'allais dire en fait, on te piétine un peu finalement, mais dans le, j'allais dire, mais dans le bon sens du terme, parce que finalement, j'ai envie de dire. Alors bon, je dis ça, mais d'un côté, je pense que je vais me faire reprendre, parce qu'en fait, je pense que finalement, quand il y a une œuvre d'art qui est présente dans l'espace public, ou même dans l'espace public ou ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, on peut y faire attention quelque temps, et puis après, le cerveau comprend que
Ah bah oui, ouais.
c'est une partie du décor, et on n'y fait plus vraiment
Et
attention,
c'est pour ça que j'aime bien l'éphémère, moi.
quoi.
Alors, il faut du pérenne, parce que c'est comme ça, évidemment. Et puis, tu vois, en parlant pour des raisons écologiques, autant poser quelque chose. Mais quand je fais de la peinture à l'acrylique, toute bête, avec des micro-couches de peinture sur le sol, j'aime bien l'idée que ça disparaisse parce que bon, j'ai pas pour vocation d'être là pendant 15 ans, moi. Ouais, et puis surtout, si je le pose là et que ça disparaît, bah, ça peut donner envie à quelqu'un d'autre de poser autre chose qui sera tout aussi sympathique que moi, j'imagine, et que ça renouvelle, quoi.
Dernière question, conclure, empreinte, Inkoï aimerait laisser, en fait.
J'en sais rien du tout. Oui, je saurais même pas répondre. Je ne me suis pas posé la question, je me la pose pas.
Ah bon? Parce que moi, c'était toujours un peu ce que je m'étais dit, c'est-à-dire, l'artiste ou le créateur tient quelque part à laisser une empreinte de ce qu'il a fait pendant
Bon, c'est pas
son
tant l'empreinte,
vivant.
c'est que mais ce que je veux déjà laisser aujourd'hui, c'est l'idée d'un travail. Par exemple, j'adore travailler dans l'espace public. Je fais très très peu d'espace privé. Alors, dans des sièges sociaux, je peux en faire, mais ça va quand même toucher, je sais pas, une centaine de personnes, quoi. Mais faire un truc, ça m'arrive parce qu'il y a des sujets très intéressants et des gens très intéressants. Mais j'aime l'espace public pour ça. C'est qu'en fait, si je devais laisser, enfin, en fait, c'est déjà ce que j'essaie de laisser. Donc, c'est l'idée de faire une forme artistique qui est offerte au plus grand nombre, qui est accessible intellectuellement au plus grand nombre. Je fais pas des œuvres conceptuelles perchées et qui révèle un truc qui fait partie de notre société, de notre culture, quoi. Voilà. Voilà. En fait, c'est un peu l'intitulé un peu long que je peux faire de ma démarche artistique. Et c'est bien tout ce que je veux laisser. Enfin, après, je m'envisage pas, voilà, je veux pas une stèle à mon, tu vois.
Et justement, si je devais, parce que je sais que tu m'as repris au début, mais je vais volontairement un peu insister. Si moi je dis j'ai envie de dresser ton portrait, mais le plus en fait simplement possible, sans détail, pour quelqu'un qui n'aurait par exemple pas entendu l'intégralité de notre entretien aux oranges, si je décris une coille artiste aux multiples facettes, ou simplement artiste, ça t'irait?
Aux multiples facettes, je pense que ça veut pas dire grand-chose. En plus, je suis pas ultra polyvalent. C'est que moi j'ai à peu près deux styles graphiques. C'est soit je dessine, soit je fais des fresques à motifs. Et aujourd'hui, j'arrive à mêler les deux. Mais voilà, je fais pas de sculpture, je fais pas de poterie, je fais pas de comme ça. Tu vois, je fais pas de vidéo. Donc, je suis multiple facette. Non, non, non. C'est juste que je suis qualifié d'artiste et qui a comme sujet le patrimoine, comme fond, disons.
Merci Nicolas.
Plaisir, merci à toi.
Avec plaisir. Et donc, bah, on va te retrouver dans tes pérégrinations. Et on peut. Ah, tu as un site internet? Tu as des
Il
réseaux
est en
sociaux?
cours de
Voilà.
reconstruction, donc là, et j'arrive pas à y mettre. Donc,
D'accord.
j'espère qu'il sera valide en octobre. Et sinon,
On te suit sur des réseaux sociaux?
il y a les réseaux sociaux et comment dire. Et ce qui me complète pour l'instant le site, c'est le truc behance.net.
Ah oui, c'est fini.
Le truc d'Adobe, où il y a tous mes boulots dessus en attendant que le site soit refait.
Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode dans 15 jours. À la prochaine sur le podcast Normand.